Jean-Paul Sartre et ses collaborateurs, Simone de Beauvoir, Jean Pouillon, A. Bonafé, J.B. Potalis vous présentent leur émission hebdomadaire.
Alors Sartre, vous nous parlez aujourd'hui des lettres que vous avez reçues à propos de nos émissions?
Oui, elles sont très intéressantes. J'ai reçu des lettres de félicitations, naturellement, et naturellement aussi des lettres de blâme et d'injures. C'est de ces dernières que je vais vous parler, parce que je trouve qu'elles traduisent un état d'esprit curieux et inquiétant. Tiens, en voilà, tenez, lisez ça.
Je vais la lire. Monsieur Paul Sartre, vous êtes un ignoble individu. Je ne comprends pas qu'un type de votre acabit ne soit pas encore lapidé. Quoi, la liberté d'opinion, d'expression, non mais c'est du parti pris. Vous êtes un loufoque, un dégueulasse. J'espère que mes semblables en idées auront votre peau. Elle est pas mal. Et celle-ci, monsieur, je tiens à vous exprimer tout mon dégoût et tout mon mépris à la suite de votre émission. Combien vous a-t-on payé pour cette émission?
Oh, vous savez... Ce n'est pas tellement intéressant, ce sont des lettres d'injures.
J'en ai vu mille comme ça. J'en ai lu en 1945, des lettres reçues par un quotidien. C'était le même ton, le même contenu. Ils sont écrites par des gens qui ne trouvent pas leur point de vue exprimé dans les journaux, des bons français comme ils signent. Et ces lettres-ci sont aussi écrites par des bons français qui attendent de pouvoir s'exprimer au grand jour, publiquement, comme ils sont aujourd'hui obligés de le faire seulement dans la clandestinité.
Oui, mais enfin, lisez-les mieux. Tenez, celle que vous venez de lire, il était dit « Combien vous a-t-on payé pour cette émission ?» Ben, lisez-en d'autres. Vous allez voir, c'est le thème qui revient tout le temps.
Oui, en effet, on vous a tout le temps vendu.
Tenez, celle-là.
Combien avez-vous reçu du Parti communiste pour nous donner une émission comme celle d'hier soir ?
Oui, par exemple, vous en avez encore d'autres.
Oui,
tenez, ça, c'est impossible.
C'est impossible, vous n'êtes pas un Français, mais un agent de l'étranger. Par qui êtes-vous payé, monsieur ?
Voilà, vous voyez, me voilà vendu à Staline. Regardez d'autre part l'article de l'Humanité de l'autre jour. Qu'est-ce qu'il disait?
Ah, oui, oui, le laquais de service. Mon pauvre Sartre, vous avez appris dans cet article que vous êtes vendu à Ramadier.
Ben oui, je suis vendu à Ramadier comme je suis vendu à Staline. Mais comme Ramadier est vendu aux États-Unis, finalement ce sont les Américains qui m'achètent. Ça se recoupe parfaitement avec ce que disait un brave professeur tchèque qui a été faire une conférence à Belgrade sur l'existentialisme, il y a peu de temps. Il a dit l'existentialisme, c'est tout simple, c'est la philosophie de Sartre qui touche tous les mois à l'ambassade des États-Unis. Ainsi, vous voyez, l'idée d'une pensée indépendante est complètement perdue. Vous parlez, vous n'êtes pas d'accord avec les gens, c'est que vous êtes payé par d'autres. Au moins, si j'étais d'un des deux blocs, il n'y aurait que la moitié des auditeurs qui m'accuseraient d'être vendu. Mais comme je ne suis ni de l'un ni de l'autre, alors vous voyez, je suis acheté par tout le monde à la fois. Ramadier, Truman et Staline. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne croit plus à l'idée d'un effort désintéressé pour comprendre. Dès que vous essayez de penser, on dit, là derrière, il y a du Machiavel, des marches, pour un but rigoureusement contraire. Vous dites quelque chose, mais au fond, c'est contre. Par exemple, vous avez attaqué le RPF, c'est sûrement pour que le RPF ait plus de voix. Vous avez parlé contre le Parti communiste, c'est pour le renforcer. Un ancien directeur de journal, un anarchiste, qui est passé au RPF, en entendant l'émission en question, a dit... C'est une manœuvre. Alors des gens qui étaient là lui ont demandé, mais quoi? Deux hommes d'affaires très malins, ils se quittent et disent à sa femme, tu vois, je suis sûr qu'il va à Paris. Il m'a dit qu'il allait à Paris, c'est pour que je croie qu'il va à Paris. Nous sommes tous comme ça. Si on nous dit A, nous croyons que c'est pour nous faire comprendre B. Et si on nous dit la vérité, nous pensons que c'est pour nous faire croire à un mensonge. Le vrai est devenu un moyen de persuader le faux. Alors vous voyez ce qu'on sent dans toutes ces lettres. C'est l'idée que la pensée est dévalorisée. La suprématie du mensonge sur la vérité, de la tactique sur la logique, des intérêts sur la pensée des intéressés. Mais continuez à lire d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres choses à voir.
Celle-ci signée un auditeur?
Oui.
Hier, à l'émission Temps moderne J.P. Sartre, j'ai pu vous comparer à Errol Paquis, lorsqu'il vomissait toutes ses insultes. Ah, mais il y en a encore là qui vous comparent à Errol Paquis. Errol Paquis n'aurait pas mieux fait.
Il y en a qui dit que le sort de Philippe Henriot vous fasse réfléchir, et là, c'est pas tout à fait ça, n'est-ce pas?
Mais il fallait un Philippe Henriot aux patriotes étrangers.
Voilà. D'autre part, il y a eu une autre lettre que je n'ai pas là, où on dit « La jeune femme qui parle avec vous à la radio est une bonne femme boche. » Et il y a encore plus joli, ici, tenez, là.
Ah oui, par qui êtes-vous payé, monsieur? Par un dictateur russe ou par un dictateur boche?
Ça, c'est vraiment très drôle, parce que je croyais qu'Hitler était mort. Enfin, peut-être qu'il ne l'est pas et que l'auditeur a des lumières spéciales sur la question. Mais enfin, vous voyez, ce qui est très frappant, n'est-ce pas, c'est qu'il y a dans toutes ces lettres une hantise. La hantise de l'occupation allemande avec tout ce qu'on y détestait. Tenez, voilà une lettre d'un type qui dit qu'il ne signe pas.
Ah oui, il ne veut pas signer parce que vos sbires ont encore, pour peu de temps, un peu d'autorité. Aussi, je vous promets de vous faire connaître avant à moi mon identité, entre parenthèses, si vous existez encore.
Mes sbires. Vous voyez, on se croit encore sous l'occupation. Je suis Henriot, on me tuera comme lui, on reste clandestin parce que si on signait, les milices toutes puissantes de l'ennemi risqueraient d'intervenir. Les sbires de l'ennemi, pensez les sbires de Ramadier. Autrement dit, on pense qu'il y a une dictature étrangère en France, menaçante et meurtrière, qui se manifeste partout, dans la vie quotidienne aussi bien que dans les grands événements. Tout le monde est d'accord là-dessus. Les gens sont en désaccord seulement pour savoir quel est le pays qui exerce la dictature. Tenez, lisez encore ça.
Monsieur Sartre, vous êtes un ignoble individu, et si les tours crématoires d'Allemagne ne sont pas encore démolies, il serait bon qu'ils servent à nous débarrasser des individus de votre espèce.
Le four crématoire, vous voyez comme les procédés de l'ennemi ont marqué. Au fond, nous vivons en 1947 avec les mêmes images, les mêmes représentations, les mêmes craintes, les mêmes haines, les mêmes souvenirs, les mêmes visions atroces qu'en 1944-43. Au fond, on pense la situation de 47 avec les mots et les moyens de 1943.
Mais qu'y a-t-il de commun entre ces deux époques ?
Mais je crois que je peux vous l'expliquer. En 1943, il y avait une résistance française très efficace, très courageuse, mais elle savait bien, et c'était une partie de son héroïsme, qu'elle ne pouvait pas chasser les Allemands à elle toute seule. On attendait donc le secours des Alliés. En somme, la France dépendait dans son destin de l'issue d'une guerre entre d'autres puissances. De là, un sentiment terrible. Un sentiment de ne pas pouvoir faire sa vie par soi-même, de ne pas pouvoir récupérer sa souveraineté nationale par soi-même, un sentiment d'impuissance. On dépendait de circonstances, de volonté, de rapports de force sur lesquels on ne pouvait rien. Et ça conduisait naturellement très vite au fatalisme. Je me rappelle cette impression de fatalité qu'avaient les gens quand ils lisaient une demi-victoire allemande dans un journal, par exemple, en disant « c'est fini, c'est perdu », etc. On auscultait, on était comme des augures. Aujourd'hui, ça n'est pas du tout pareil, mais il y a tout un courant de pensée, et il y a des gens qui en profitent, qui tentent à nous persuader que nous sommes impuissants. On nous dit, il va y avoir la guerre. La guerre entre les Américains et les Russes. Nous, nous serons occupés, naturellement. Vous voyez, on fait appel à vieux souvenirs, parce que nous savons ce que c'est que l'occupation. Nous serons occupés, et puis nous serons libérés. Il s'agit tout juste de choisir, selon votre goût, l'occupant et le libérateur. Par ailleurs, vous êtes totalement impuissants à empêcher cette guerre, et en face des deux colosses, la France est beaucoup trop petite pour décider de son sort. Tout dépend de la bombe atomique, les Russes en ont-ils, les Américains en ont-ils assez, et des autres armes secrètes. Autrement dit, là encore, tout est hors de nos mains, il n'y a qu'à choisir un des blocs et se faire protéger par lui, comme les paysans au Moyen-Âge ou les petits nobles choisissaient un suzerain, un seigneur plus fort, pour les protéger. Des deux côtés, les gens parlent déjà de l'époque où ils rentreront dans la clandestinité. Le fond de tout ça, voyez-vous, c'est le sentiment d'une impuissance totale. Qu'on développe, qu'on éduque chez nous.
En effet, quand on se sent impuissant, quand aucune action concertée n'est possible, une seule échappatoire reste, le cassage de gueule protestant, ou au moins, l'explosion de rage.
Oui, et l'impuissance, alors, dévalorise tout, dévalorise d'abord la pensée. Pourquoi voulez-vous penser, puisque vous êtes impuissant? Pourquoi voulez-vous condamner la guerre qui vient, puisqu'elle arrivera sûrement? Donc, inutile de penser, comme dit l'un, ce sont des jeux intellectuels. Il dit, il faut vous engager plus solidement. S'engager plus solidement, ça veut dire refuser de penser et commencer à taper sur quelqu'un bras raccourcis, jusqu'à ce qu'on se fasse assommer ou qu'on l'assomme. Et puis alors, vous arrivez comme ça à une idée enfantine. L'idée, vous savez, qu'on a dans les tout petits catéchismes pour les enfants de 6 ans, il y a le bien et il y a le mal. L'un des blocs est le bien, l'autre est le mal. Pas question de penser qu'il y en a un qui a un petit peu plus de choses que l'autre, ou bien qu'il y a des difficultés, que ce sont des hommes qui se débattent, qui peuvent changer. Non, l'un est le bien, l'autre est le mal. Encore une fois, les gens ne sont simplement pas d'accord sur celui qui est le bien et celui qui est le mal. Les gens sont ou tout bons ou tout méchants. Ensuite, naturellement, autrefois, les gens croyaient qu'il fallait construire, patiemment, difficilement. C'était même émouvant, une vie humaine qui consistait précisément à essayer de faire quelque chose. C'était des entreprises diverses. Il y en avait qui faisaient simplement un jardin, il y en avait d'autres qui pouvaient s'occuper de politique, il y en avait qui faisaient leur métier simplement. En tout cas, la vie était une entreprise patiente, difficile, et au bout d'une vie, eh bien, on avait enrichi le monde. Mais maintenant, pourquoi faire? Il y a le bien, il est tout fait. Il y a le mal, il est tout fait aussi. Il n'est plus question de construire patiemment une chose bonne. Le bien est déjà là. Il faut simplement aider le bien à détruire le mal. Il s'agit donc d'exterminer, de démolir, d'écraser. L'impuissance amène à la violence. On ne discute plus avec l'adversaire. Pourquoi faire des temps perdus? On le tue.
Il y a des gens qui sont plus doux et qui ne sont pas tellement doués par la violence. et qu'il prendra au fil de la discussion. Regardez par exemple cette lettre de jeune homme qui a l'air cultivé, intelligent, et qui refuse absolument toute espèce de raisonnement.
Oui, ça change de lettre d'injure. C'est celui qui parle de la mystique gaulliste. Voici ce qu'il dit. Votre petit jeu est absurde et cruel comme un jeu de gosse. Vous emmenez un mystique sur le plan intellectuel et vous le laissez là comme un marsouin sur la table à lui donner quelques coups de pied pour qu'il se défende. Et vous avez encore le cynisme de vous étonner de sa maladresse. Voilà ce que j'appelle de la mauvaise foi. Car aucun de vous n'ignore évidemment que si presque toute la vie se passe, pour vous au moins, en jeu de l'esprit et en littérature, toute la vie n'est pas cela. Vous savez qu'il y a des occasions où, qu'on le veuille ou non, il faut s'engager un peu plus et même s'engager tout entier. C'est à ce moment-là et dans ces conditions-là qu'il vous faut voir le mystique et qu'il serait honnête que vous vous mesuriez avec lui.
Oui, les mystiques ne discutent pas. On a déjà entendu son cloche, c'est quelquefois dangereux.
En conclusion, vous voyez, le sentiment de l'impuissance mène à l'idée de fatalité. La fatalité amène ce qu'on nomme le manichéisme, c'est-à-dire la division du monde en deux blocs, le bien et le mal. Il ne s'agit plus que de détruire le mal, ça on le fait par la violence, ou de contempler mystiquement le bien. Pour le reste, l'homme est entièrement dépossédé de lui-même, il ne peut plus rien faire qu'attendre. Il y a un mot de Rousset, l'écrivain, que je voudrais vous citer. Vous savez qu'il a été dans un camp de concentration, il a écrit là-dessus un vrai beau livre qui s'appelle « L'univers concentrationnaire ». Bon, aujourd'hui, c'est fini, il est sorti, c'est, ou ça devrait être, la paix, le monde d'après l'univers concentrationnaire. Eh bien, il dit, et il s'y connaît, nous sommes dans un univers pré-concentrationnaire. C'est-à-dire, nous sommes persuadés de notre impuissance et de l'absurdité du monde. Nous sommes en train de devenir, à cause de cela, des masses résignées qu'on poussera comme des troupeaux, soit d'un pays à l'autre, ça s'appelle élégamment transfert de population, soit entre des barbelés. Eh bien, c'est contre ça que nous sommes. Nous ne sommes contre personne, ni vendus à personne, ni contre personne. Nous sommes contre cette propagande et contre cet état d'esprit.
Nous, qui vouliez-vous dire les existentialistes?
Ah, ne prononcez pas ce mot-là. Si vous savez tout ce qu'on y met, c'est extraordinaire. Lisez par exemple l'article de François Combat, le dernier. C'est un spicilège, une anthologie. Ce sont, les existentialistes, ce sont des veules. C'est le triomphe de l'aveulerie. Bon, les existentialistes, c'est la saleté. On figure des existentialistes avec des pots de chambre en main. C'est l'obscénité. Bon, c'est, dit-on, l'excrémentialisme. Quelqu'un a dit, autrefois nous avions le mouvement Dada, maintenant nous avons le mouvement Caca. C'est surtout le pessimisme et le désespoir. Il paraît que nous sommes des désespérés. Vous voyez, ça c'est le procédé courant de l'adversaire. D'ailleurs, si nous étions désespérés, nous resterions chez nous. Qu'est-ce que nous devons faire ici? À parler aux gens. Et en réalité, les gens affirment sans preuve que l'existentialisme, c'est la mode du désespoir. Et il est visible que la plupart, comme le pauvre malheureux qui a écrit l'article de France au combat, n'ont jamais lu une ligne de ce dont il parle.
Ils sont aidés par de petits snobs, mais aussi par des commerçants qui y trouvent leur gagne-pain.
Mais naturellement, dès que le mot est en vogue, vous avez des gens qui commencent à gagner de l'argent avec. Vous avez par exemple des bars qui se disent existentialistes. Qu'est-ce qui peut faire l'existentialisme d'un bar? La décoration. Vous avez même un couturier existentialiste. Il n'est pas besoin de vous dire que ce n'est pas chez lui que je me fais habiller. En fait, vous voyez, tous ces gens-là nous portent évidemment le plus grand tort et nous les désavons absolument. Nous désavons ces snobs, nous désavons ce couturier, nous désavons tous ces gens. Je me rappelle par exemple qu'on m'a envoyé en Suède où j'étais un coup de téléphone pour me dire que pensez-vous de la fermeture du tabou. Fermeture du tabou, mais je n'ai jamais mis les pieds, j'ai répondu. Je m'en moque complètement. En fait, n'est-ce pas, l'existentialisme, c'est une philosophie. Les gens ne savent jamais que c'est une philosophie, bien entendu, puisqu'ils pensent par passion. Philosophie, c'est-à-dire quand même un effort des gens pour s'interroger sur eux-mêmes. C'est quelque chose de difficile à comprendre. C'est quelque chose qu'un reporter de France au combat ne devrait pas essayer de comprendre. Et c'est pour ça, si vous voulez bien, qu'il vaut mieux que nous n'en parlions pas.
Ah mais si, au contraire, Sartre, parlons-en. C'est irritant à la fin de rencontrer toujours des gens qui définissent l'existentialisme comme le contraire de ce qu'il est. Ainsi, moi, voyez, hier encore, des amis qui sont des sportifs me disaient « Vous ne devriez pas être sportif puisque vous êtes existentialiste. »
Et vous avez raison, il faut évidemment en parler. Seulement, ce serait trop long et peut-être ennuyeux. Ce que je peux faire, c'est essayer de montrer les points précis par où cette philosophie nous oblige à un choix politique, et nous oblige à lutter contre la situation présente. La grande idée de l'existentialisme, c'est précisément de lutter contre le sentiment d'impuissance. Nous pensons que l'homme n'est jamais impuissant que lorsqu'il est persuadé qu'il l'est. Ah, alors là, c'est vraiment l'impuissance, parce qu'il ne fait plus rien, parce qu'il attend du dehors et que les choses arrivent en dehors de lui. Mais même dans les situations les plus écrasantes, l'existentialiste pense que l'homme est libre. Tenez, par exemple, vos sportifs, n'est-ce pas ? Ils ont tout à fait tort, en ce sens que nous pensons précisément qu'il n'est pas de corps que l'exercice, la patience, ne puisse améliorer. Et par conséquent, l'existentialiste est au contraire pour le sport. Mais surtout, n'est-ce pas, nous pensons que la responsabilité de l'homme est terrifiante parce que l'homme devient exactement ce qu'il décide d'être. Si par exemple, comme on est en train de le faire à présent, nous décidons que la liberté n'existe pas, que la pensée est inefficace, que nous sommes impuissants, que la seule loi c'est par moment la violence et la plupart du temps la soumission résignée, alors nous ferons arriver ce que nous avons décidé. Et pendant des siècles peut-être, l'homme ne sera plus que cela, rien que cela, et il ne méritera pas d'être davantage. Si au contraire, fût-ce une poignée d'hommes, continuent à affirmer que notre destin est entre nos mains, même si demain, il doit se produire une catastrophe, pourvu que ces hommes ne lâchent pas prise, l'idée reste. Elle pourrait être reprise par d'autres. Qui sont les pessimistes ? Est-ce nous, ou bien sont-ce les gens qui pensent ça et qui nous insultent ? Et puis, deuxièmement, et surtout, nous pensons que l'homme n'est pas un simple refus. Il ne s'agit pas seulement pour lui de dire non. Et s'il se borne à dire non, il arrivera fatalement à la violence. Il est libre pour construire. Il ne s'agit pas pour nous de détruire frénétiquement un des blocs et de nous casser les ongles à essayer de taper dessus. Il s'agit au contraire de nous organiser positivement entre les deux. Ici, la solution n'est pas seulement française. France seule, ça, c'est un jugement de morale. Elle est européenne. Et elle n'est pas seulement européenne, elle est mondiale. Seulement, il ne s'agit pas d'attendre du secours. Bien certainement. Il s'agit de prendre l'initiative. Et pourquoi pas en France ? Ne parlons pas de simple remaniement ministériel. Il faut lancer un appel à tous les partis de bonne volonté, tous les partis socialistes et démocratiques européens. Je connais beaucoup d'hommes politiques et d'écrivains qui sont décidés à le faire. Il faut essayer d'obtenir une union internationale et constructive, non pas contre un bloc ou contre un autre, mais d'abord positivement pour résoudre les problèmes économiques et sociaux dans le cadre d'une union socialiste européenne. Et là encore, considérons l'Europe comme le point de départ nécessaire de ce mouvement, mais n'imaginons pas qu'elle forme un troisième bloc. Au contraire, si elle commence, elle trouvera des alliés à l'intérieur même des deux blocs, pour les ouvriers américains, parmi les ouvriers américains et aussi parmi les pays d'Europe centrale. Il est temps encore, économiquement et politiquement, il est temps. Il n'est pas possible de dire seulement non. Il faut essayer de construire et il faut dire ce qu'on veut. Cette politique, je lirai ici même les textes et manifestes signés par les hommes politiques et les écrivains dont je parlais, n'est pas seulement conforme à l'intérêt de tous, elle est pour moi inspirée par le principe même de l'existentialisme qui est confiance dans la liberté humaine.
Je crois qu'il faut dire aussi, ça je suis d'accord avec vous, que nous ne pouvons pas nous libérer seuls. Et cette tentative dont nous parlons, nul ne peut prévoir encore jusqu'où elle fera son chemin. Si dans quelques pays d'Europe, elle pouvait se manifester concrètement par la destruction de toutes les mystifications dont nous sommes les uns et les autres victimes, par la réalisation de mesures qui prépareraient l'aboutissement d'une démocratie véritable, briserait le fascisme renaissant, alors il y aurait un facteur nouveau dans le monde tel que le rapport des forces mondiales actuelles, qui est une menace pour chacun de nous, ne pourrait rester ce qu'il est.
Eh bien, mais vous avez tout à fait raison, c'est ce que pense aussi le philosophe existentialiste, parce qu'il pense qu'on ne peut pas être libre tout seul.
Jean-Paul Sartre et ses collaborateurs, Simone de Beauvoir, Jean Pouillon, A. Bonafé et J.B. Pontalis, viennent de vous présenter leur émission hebdomadaire.